Avec Alain Duhamel, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Et Julien Aubert, bonsoir.
Bonsoir,
ancien député, membre du comité stratégique du Parti Les Républicains,
oui.
Désormais dirigé par Bruno Retailleau.
On n'est plus vice-président ?
Ah bah écoutez, autant suspend ton vol, on saura l'organigramme dans 10-15 jours, donc je vous dirai si dans 10-15 jours je suis encore vice-président. Voilà, si vous voulez voter pour moi, tapez R1.
Alors parlons, parce qu'on voit derrière vous, messieurs, des tracteurs. Donc la colère des agriculteurs est revenue, ils sont à l'Assemblée nationale. Alors, ils sont du côté de la Seine et de l'autre côté de l'Assemblée nationale.
Oui.
C'est de l'autre côté de l'Assemblée nationale se trouvent les chauffeurs de taxi. Mmh. Et les chauffeurs de taxi eux aussi en colère, pression sur le gouvernement. Donc c'est peut-être le premier conflit auquel est confronté François Bayrou. Il peut s'en sortir, il va s'en sortir, Alain Duhamel.
Bah écoutez, je pense que ce qui se passe avec les agriculteurs je pense que ça va bien se terminer du point de vue des agriculteurs, que d'ailleurs c'est assez légitime. Je pense qu'en ce qui concerne les chauffeurs de taxi, ça va être très calé. Mais je pense que en arrivant, François Bayrou, qui est un réaliste, avait dit « je sais bien que je dois franchir l'Himalaya ». Quand je regarde ce qui me paraît aujourd'hui de très très loin la question la plus importante, c'est-à-dire le déficit du budget de l'État, des collectivités locales et le budget de la sécurité sociale, surtout avec après le nouveau rapport
de la Cour des comptes,
hyper alarmant. Je pense que si François Bayrou veut franchir l'Himalaya, il a intérêt à prendre un hélicoptère. Maintenant.
Mais ça veut dire, pardon, pour vous, il va reculer sur les taxis, notamment sur, parce qu'on parle de la sécurité sociale, sur la convention, nouvelle convention sur le transport sanitaire.
Je ne pense pas qu'il puisse reculer. Je pense qu'il va être obligé d'essayer de transiger sur ceux qui en vont en prendre plein la figure. C'est
les BTC.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est sur eux, oui. Bon, pour le reste, le déficit existe. L'augmentation du déficit lié aux transports médicaux, personne ne peut nier que ce soit une réalité. Et il ne pourra pas revenir complètement là-dessus. Il pourra faire des gestes, mais il ne pourra pas revenir là-dessus. En plus, s'il revient là-dessus, il faut qu'il revienne sur tout. Et comme signal vis-à-vis de « moi, je vais vraiment m'attaquer à combattre le déficit et à prendre des mesures courageuses », c'est le pire signe.
Alors, je suis d'accord et pas d'accord.
C'est généralement le cas.
C'est généralement le cas. Le problème de François Bayrou, à la limite pour sa majorité, pour l'avenir, ne vient pas de ces crises. Elle vient plutôt des propos qui peuvent être tenus par les différents acteurs de la future présidentielle, à mon avis. Mais ces affaires montrent le désordre dans la société française. Alors, c'est particulièrement le cas des agriculteurs. C'est un sujet qui m'est cher parce que j'ai été député pendant 10 ans d'un territoire rural qui a vécu ces affaires d'agroécologie, d'interdiction de produits phytosanitaires où on marche sur la tête. Je veux dire, on a interdit, par exemple, un produit qui s'appelle le diméthoate qui permettait de traiter la mouche de la cerise et on l'a laissé dans le reste de l'Union européenne, ce qui fait que les Français mangent des cerises turques produites et largement arrosées de diméthoate parce que, du coup, on ne produit plus beaucoup de cerises, notamment dans le département de Vaucluse. Et je pourrais vous citer d'autres cas, la lavande et la cicadelle, etc., etc. Et en réalité, je dirais, ils ont raison, parce que les Français sont d'accord, je dirais, sur l'agroécologie. Après, on ne peut pas du jour au lendemain laisser comme ça des pans entiers de l'économie faibles par rapport à des interdictions sans solution de substitution. Donc, je pense que la loi Duplan est une bonne loi et que effectivement, la droite, les Républicains, de ce point de vue-là, jouent un rôle. Sur les taxis, évidemment, il faut rétablir les comptes, mais en n'oubliant pas qu'il y a parfois des gens pour qui ça représente une bonne proportion de leur activité économique, notamment dans les territoires ruraux, mais pas seulement. Prenez une ville comme Avignon. Je connais assez bien les taxis. Bien, Avignon, c'est une ville qui vit beaucoup de culture. Alors, il y a beaucoup de touristes entre mai et septembre et octobre. Mais en même temps, il faut vivre le reste de l'année. Et pour ces VTC, pour ces taxis.
Certains taxis ici nous ont dit que c'est 80% de leur chiffre d'affaires.
Évidemment. Oui. En fait, s'il y a une moyenne, oui. Et puis. Voilà, on peut le comprendre simplement. Oui, mais... on peut pas répondre, je dirais, à un sujet en réalité de maintien de la vie économique uniquement par des questions comptables.
Non, mais alors, en ce qui concerne les agriculteurs. Je pense que la loi en question est justifiée dans la mesure où les agriculteurs, on les fait lanterner depuis 2 ans. Et qu'avec la suite de la stabilité gouvernementale, ce qu'on leur promet n'est pas tenu. Et c'est ça, et franchement, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas tenu. Donc je pense que c'est la technique qu'on utilise, c'est un système de bout de ficelle constitutionnel, mais peu importe, il faut que la loi se passe et puis que ce qui lui aura été réellement promis soit donné. Pour ce qui concerne les VTC, moi je comprends très bien les problèmes des VTC et je sais très bien quels sont ceux qui effectivement ont besoin de ça tout simplement pour pouvoir continuer à exercer leur métier. C'est pas du tout quelque chose à ignorer. Mais en revanche, ce qu'on ne peut pas ignorer non plus, c'est la réalité du dérapage monstrueux en quelques années. Parce que quand on voit des augmentations de déficit de 60%, on ne peut pas se dire qu'on est dans une situation normale.
Oui, mais la question, c'est comme dans l'agriculture, c'est la transition. Tout le monde est d'accord sur le fait de dire il faut effectivement équilibrer les comptes, éviter ces déficits en matière de santé, il faut avoir une agriculture responsable. La question, c'est l'adaptation de l'économie et principalement d'ailleurs des moyens de subsistance des hommes et des femmes qui sont derrière à cette situation. Ça, vous ne changerez pas d'un coup de baguette magique du jour au lendemain la situation et vous ne pouvez pas perturber. Évidemment,
non, si mais y a quand même quelque chose, c'est que qu'il y ait des glissements annuels qui soient de 3-4%, c'est ce qui crée un déficit. Mais c'est compréhensible. Mais qu'il puisse y avoir une augmentation d'un déficit de 60% sans qu'il y ait vraiment une réaction, là, franchement, c'est incroyable que simplement on laisse exister ça.
Oui, mais je pense que les taxis et VTC peuvent le comprendre. Simplement, ils veulent avoir une écoute. Et François Bayrou s'est imposé à Matignon en disant un peu, moi, je suis l'homme de l'écoute et puis je suis l'homme de la province. Donc, si vous voulez, sur cette question des taxis, qui est quand même une question aussi éminemment de vie, de petites villes hein, aussi, hein, et de territoires ruraux, parce que et sur l'agriculture, s'il n'arrive pas à prouver sa plus-value, on se demandera finalement à quoi ça sert d'avoir un premier ministre qui vient de la France profonde entre guillemets, si lui n'est pas en capacité d'écouter.
Il est devant un mur qui est le déficit budgétaire. Il est arrivé en disant: je suis quelqu'un de courageux et je vais vraiment non pas vous proposer des réformes de détail, mais un système qui va nous permettre de combattre vraiment ce déficit, ce qui serait une petite révolution. Pour l'instant, on n'a rien vu. Et on ne verra rien réellement, puisqu'il a dit que...
Tout est repoussé à chaque fois.
Tout est le 14 juillet...
Les retraites, le conclave a été repoussé.
Mais justement,
prolongé.
Et chacun prolongé pour l'autre.
Voilà.
Bon, aujourd'hui, il s'est fixé lui-même une échéance qui est en avance par rapport au calendrier budgétaire. Le calendrier budgétaire, c'est première semaine d'octobre. Il dit, pour le 14 juillet, il ferait des propositions. Mais pour que ça ait un sens, ça corresponde au problème. Oui, mais c'est exprès.
Oui.
C'est pour faire des propositions fracassante, voilà. Et que les gens y réfléchissent pendant leurs vacances.
Il n'y aura pas de session parlementaire extraordinaire.
Mais attendez, je suis presque fini. Mais
pour passer de mauvaises vacances, en fait.
Il a pris un engagement qui est tellement ambitieux qu'il ne peut pas se permettre de donner un quart de réponse. Et donc, la question est-ce que, contrairement à tout ce qui s'est passé pendant les gouvernements précédents, pas simplement le dernier et l'avant-dernier, les gouvernements... Je suis tenté de dire les gouvernements depuis presque 20 ans. Devant ces gouvernements qui combattaient les déficits, mais qui n'arrivaient pas à les faire reculer, bon, dans des conditions comme celle-là, il est obligé de proposer quelque chose de fracassant. Et quelque chose de fracassant, je suis assez sceptique sur l'accueil que ça aura. Particulier sur l'accueil d'abord des Français, mais ensuite l'accueil parlementaire. Qu'on va tout droit vers une énorme crise au mois d'octobre.
Parce que moi, je
les pense... LR, vous allez le lâcher quand, François Bayrou?
Vous savez, je ne suis pas président du parti. Mais ce n'est pas LR qui lâchera François Bayrou. J'ai de bonnes relations avec le nouveau président. Je suis content qu'il ait été élu. Mais en réalité, c'est s'il y a à un moment donné un désaccord majeur sur le fond de sa politique. Encore faudrait-il qu'ils la définissent. Je crois, moi, que le problème, c'est qu'on n'attend pas du Premier ministre d'avoir un raisonnement comptable. il y a dans cette crise, je dirais aussi peut-être la manière dont on combat l'incendie. Vous dites, il est là pour combattre les déficits. Le problème vient du fond de l'économie, de la croissance économique, de la faiblesse économique. Oui. Et s'il aborde juste un sujet, c'est de rétablir des dépenses d'un côté et des gains de l'autre, en réalité, ça ne résoudra pas le fond du problème. Imaginons une entreprise qui perdrait beaucoup d'argent tous les ans parce qu'elle vendrait des téléphones fixes. Est-ce que le problème vient du fait qu'elle a beaucoup de dépenses et peu de recettes, ou est-ce qu'elle vient du fait que son modèle économique est dépassé? En réalité, on a besoin d'une vision pour le pays. Ces agriculteurs, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur explique c'est quoi l'agriculture de la France dans 30 ans? C'est quoi la place des artisans, des commerçants, des indépendants dans 30 ans?
Comment est-ce qu'on bouge les trous, là,
pour moi, on fait pour l'instant du raisonnement comptable. Et ça, c'est le rôle du ministre du budget.
Ce que vous dites est, comme toujours, très intéressant, et je suis content de voir devant moi un homme politique qui cherche à avoir vraiment une vision d'avenir qui aille très au-delà du prochain budget.
Ça nous changerait en même temps.
J'en suis très heureux, c'est ce que je viens de dire. Bon,
avec une pointe d'ironie.
Parce que sur le fond, c'est vrai. Sur le fond, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un modèle économique français qui aujourd'hui n'est plus vraiment adapté.
En tout cas, on gère la petite semaine, alors qu'il faut faire des réformes structurelles.
C'est
pareil pour les retraites,
Il n'y a pas d'élan réformateur à la hauteur des difficultés dans lesquelles on est. Bon, ça, c'est une réalité, et c'est tout à fait normal, c'est pour ça que je ne suis pas tellement ironique, en tout cas pas au premier degré. Donc, c'est normal qu'il y ait besoin de réfléchir là-dessus. Mais dans l'immédiat, on a une question qu'on ne peut pas accepter de poser encore comme ça des années, et qui est qu'on a un dérapage budgétaire et un endettement devant lequel il faut prendre des décisions désagréables.
Alors,
et les décisions désagréables, ça signifie une crise politique inévitable au mois d'octobre.
Alors, peut-être que quelqu'un est en embuscade, c'est Bruno Retailleau, parce que le ministre de l'Intérieur, votre nouveau président chez les Républicains, il était devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Il est sorti avec Mme Genevard, la ministre de l'Agriculture, et il est venu s'adresser aux paysans, aux représentants syndicaux. Mme Genevard a pris la parole. Ensuite, ça a été M. Retailleau. Bruno Retailleau, président des Républicains, ministre de l'Intérieur. Il est aussi ministre de l'Agriculture.
Constitutionnaliste, alors, aussi.
Oui, parce qu'il veut changer la Constitution. Alors, que se passe-t-il avec Bruno Retailleau?
Il est en campagne.
Mais pourquoi? Il vient de gagner.
Il vient de gagner la première marche. Et ce qui l'intéresse visiblement de plus en plus, c'est la troisième, c'est le plus haut, évidemment. Quand dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire avec des agriculteurs qui exigent qu'on tienne parole. Si on va les voir, quand on est ministre de l'Intérieur...
De droite.
Volontairement, il n'était pas du tout obligé d'y aller.
C'est pas le ministre de l'Intérieur qui est allé.
C'est le président d'un parti politique qui
soutient un sénateur, qui est évidemment proche du sénateur Duplomb, qui est à l'origine de la loi,
Il n'a pas été voir les taxis qui sont à côté.
Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas...
Je vous le dis, c'est une affirmation.
Il aurait pu peut-être, mais je pense, si vous voulez, que c'est assez normal de dire, il y a le ministre qui vient au nom du gouvernement, lui ne représente pas le gouvernement dans cette affaire, puisqu'il y a Annie Genevard.
Être ministre de l'Intérieur, être le ministre le plus connu et probablement le plus puissant du gouvernement, et quand on parle, dire, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui parle.
Mais évidemment...
Bien sûr que si.
Quand le ministre de l'Intérieur s'exprime sur des sujets de l'agriculture...
Le
ministre de l'Intérieur, il s'exprime sur les sujets qui ont trait à la police, à la gendarmerie.
Le
ministre de l'Intérieur parle d'agriculture, on comprend bien que c'est le président du parti. A fortiori, d'ailleurs, quand il y a la ministre...
On va dire de quoi il se mêle. Il n'est pas Premier ministre.
Alors après, que ses collègues au gouvernement trouvent qu'ils prennent trop de place... mais qu'ils en tirent les conséquences. S'ils considèrent que M. Retailleau est un handicap pour le gouvernement, qu'ils le disent. Certains le pensent sur la relation avec l'Algérie. Moi, je suis content d'avoir un président de parti qui va voir les agriculteurs.
Compte tenu de ce que vous êtes par rapport à lui, si vous nous disiez le contraire, on serait un peu étonnés. Mais vous le traitez comme une sorte de montgolfière qu'on est en train de remplir progressivement pour qu'elle s'élève. Alors, il a franchi un premier stade en devenant ministre, un deuxième stade, il vient de le franchir en devenant président du parti, et maintenant, vous considérez que en tant que président du parti, et bien qu'il soit ministre de l'Intérieur, il peut s'exprimer sur n'importe quel sujet, comme s'il était déjà le candidat à l'élection présidentielle. Alors reconnaissez, achevez de faire entrer ce qu'il faut pour que votre ballon et votre montgolfière s'élèvent majestueusement, et dites-nous que vous serez dans la nacelle avec lui.
Là, je vais vous répondre deux choses.
Alors, la montgolfière...
Premièrement, vous avez raison.
C'est une montgolfière ?
Non, c'est pas une montgolfière. Enfin, je suis montgolfière, un avion, une fusée, ce que vous voulez.
Moi, je suis plutôt fusée. Il est plutôt montgolfière que fusée.
Si la question est, est-ce que Bruno Retailleau peut être une chance pour la droite pour 2027 ? Ma réponse est oui. Est-ce que j'espère qu'il sera le candidat ? Moi, je vais vous dire, les primaires, j'en ai soupé. Donc, pour une fois, nous avons un candidat que les gens écoutent. Et c'est quelqu'un de très bien. Bon, donc ça ne me pose aucun problème. Mais... c'est parce que je vous dis ça, que je vous dis que dans l'épisode-là, je ne crois pas qu'il faille l'analyser à l'aune d'une campagne présidentielle, mais comprendre que c'est son rôle de responsable public. Enfin, quand même, l'agriculture, c'est quand même un moteur hyper important pour notre souveraineté alimentaire. Je pense que c'est bien d'aller les voir.
Alors, je voudrais qu'on on termine ce face à Duhamel avec cette séquence quand même qui crée la polémique et attise beaucoup de passion sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État est en déplacement au Vietnam. Il arrive sur l'aéroport d'Hanoï et que s'est-il passé avec son épouse Brigitte Macron ? A-t-elle porté la main à son visage dans un moment de peut-être de tension au sein du couple ? Non, a réagi le président de la République. Elle est maboule des réseaux sociaux qui interprète. Il s'agissait juste d'une... Enfin, autant écouter le président de la République. D'une chamaillerie, voilà, Alain Duhamel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon. J'en pense d'abord que c'est vraiment le problème le moins important du moment et qu'on a franchement autre chose à faire de plus sérieux.
C'est pourquoi la vidéo qui a été le plus vue aujourd'hui.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, je sais ce que sont les réseaux sociaux et je sais comment ça fonctionne. Je n'en doute pas. Le contraire m'aurait étonné. Maintenant, pour vous dire le fond de ma pensée, depuis Georges Pompidou exclu, tous les couples présidentiels sont passés par des difficultés parce que être président, c'est un métier inhumain, que dans un couple, quand on vit avec quelqu'un qui a un métier inhumain, surtout au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, en règle générale, ça se termine par des tensions.
Vous croyez pas à chamaillerie pour vous
et des tensions.
Parfois, moi,
j'en ai toujours connu des tensions dans les couples présidentiels et je répète,
sans être présidentiel, dans les couples d'ailleurs.
Oui, d'accord. Mais enfin, en l'occurrence, vous m'interrogez sur les couples présidentiels. Si vous voulez que je m'interroge sur les couples des journalistes, je veux bien.
Aucune tension entre nous.
Moi,
ça fait 20 ans.
Comme quoi, vous avez peut-être des
leçons. Mais on peut se chamailler de temps en temps.
Non, mais je veux pas savoir qui fait torchon, qui fait serviette. Là, en l'occurrence, c'est pas un fait politique. C'est un acte qui aurait dû rester privé, qui n'a aucun impact sur ça aurait été l'inverse. Le président qui frappe sa femme, je vous aurais dit ça, ça me pose un sujet parce que, voilà. Mais là, en l'occurrence, ça me le rend d'ailleurs plutôt sympathique. Voilà. Et puis ensuite, on est un peu, si vous voulez, gêné d'assister à ça parce que nous n'aurions pas dû y assister. Et
ça, c'est sûr.
Et ça montre bien qu'une information n'est pas forcément, je dirais toujours, fait politique.
Oui, mais ce qui est quand même intéressant, c'est dans un premier temps, la présidence de la République qui dément la véracité de ces images et qui dit fake news et intelligence artificielle.
C'est une maladresse.
Et dans un deuxième temps, le président qui est obligé de s'expliquer à Hanoï en disant non, c'est pas une scène de ménage. Est-ce qu'il y a une erreur de communication
Je sais bien que vous avez envie que je vous dise oui, et comme je pense oui, je vous dis oui. Évidemment qu'il y a eu une erreur de communication. Bon, mais entre le fait de savoir s'il venait de se chamailler d'une part, et d'autre part, le déficit budgétaire, franchement, je trouve qu'il y a un problème qui est sérieux, et l'autre qui, à la limite, d'abord, moi, je m'en fiche, mais ensuite, dont je pense qu'en réalité, il ne nous regarde pas et qu'on n'aurait rien dû savoir.
Je suis d'accord avec Alain, elle se comprend l'erreur de communication, parce que je pense...
On ment délibérément.
Vous êtes mortifié, vous êtes président de la République, vous venez en voyage officiel, la porte s'ouvre au même moment, votre femme, je ne sais pas ce qui arrive, et là, vous réalisez que ça a été filmé, que c'est une catastrophe, vous essayez...
Il ne faut pas dire que les images n'existent pas,
mais c'est humain, c'est idiot. Ça montre, pour une fois, ça montre qu'Emmanuel Macron est humain et qu'il a des réactions humaines et qu'il a aussi peut-être une vie qui
Allez, s'il va falloir que je vous bâillonne tous les trois, là, ou je vienne vers vous.
Bâillonner comme le jambon.
Je sais pas, vous devriez pouvoir faire mieux, normalement.
Non, moi, vous savez, j'aime bien, c'est un humour classique et de province.
Allez, on y reviendra dans la deuxième partie de BFM Story, justement, avec des spécialistes en communication et savoir comment on réagit aussi dans l'entourage du couple présidentiel du côté d'Hanoï.